À la une de l'actualité ce midi, après Notre-Dame de Paris l'année dernière, c'est la cathédrale de Nantes qui a brûlé ce matin. Un incendie désormais maîtrisé, mais dont l'origine serait criminelle. On fait le point en début de journal. C'était un ancien compagnon de Martin Luther King, un militant incontournable de la lutte des Afro-Américains contre l'injustice raciale aux États-Unis. John Lewis est mort hier à l'âge de 80 ans. Portrait et archives dans ce journal. Les chefs d'État européens vont-ils réussir à s'entendre sur un plan de relance? Le sommet est toujours en cours avec d'intenses négociations. Enfin, nous reviendrons sur la polémique après la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur. Une nomination qui ne passe toujours pas à cause d'une plainte pour viol déposée contre lui et l'enquête pour abus de faiblesse qui vise le ministre. Un an et trois mois après Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes qui était en proie aux flammes ce matin. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Un incendie qui, à la différence de Notre-Dame de Paris, pourrait bien être d'origine criminelle, Nabila.
Il était 7h45 ce matin quand des passants et des riverains ont vu des flammes derrière la rosace de la cathédrale de Nantes. Ils ont alerté aussitôt les secours. Pas moins de 104 sapeurs-pompiers et 45 engins venant de l'ensemble du département de Loire-Atlantique ont été mobilisés. Première constatation faite par le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlet. L'incendie est situé au niveau de l'orgue. Le grand orgue semble entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer. L'incendie a été circonscrit, vous l'avez dit, vers 10h. Un incendie qui a rappelé pour beaucoup de Nantais celui de 1972. Mais la maire socialiste, Johanna Roland, a affirmé ce matin qu'à ce stade, la situation n'est pas comparable. Au fil de la matinée et de l'intervention rapide des pompiers, ce sont en tout 3 départs de feu qui ont été constatés. Pour le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, ils ne peuvent être le fruit du hasard. Une enquête a donc été ouverte pour incendie criminel.
Il y a un départ de feu au premier étage au niveau du grand orgue et 2 départs de feu à gauche et à droite de la nef. Bon, 3 départs de feu, ça nous amène quand même à privilégier bien sûr une hypothèse criminelle.
Il n'y a pas de conclusion à tirer maintenant, précise le procureur, car il y a encore beaucoup d'enquêtes à faire qui peuvent apporter des éléments nouveaux. La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris va se déplacer à Nantes pour examiner les points de départ de feu et l'installation électrique de la cathédrale.
Merci Nabila Hamel. Et le Premier ministre Jean Castex se rend sur place cet après-midi, de même que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Emmanuel Macron réagit également sur Twitter, apportant son soutien aux sapeurs-pompiers. Les États-Unis saluent la mémoire de John Lewis, décédé à 80 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais outre-Atlantique, il était une icône, un titan même du mouvement des droits civiques, écrit ce matin la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Toute sa vie, John Lewis a mené une bataille pacifique mais acharnée pour les droits des Afro-Américains, Marie-Pierre Véraud.
Compagnon de route de Martin Luther King, John Lewis était même le plus jeune meneur de cette marche sur Washington en 1963, lorsque le pasteur prononça son célèbre discours « I have a dream ». John Lewis avait lui aussi fait de sa vie un combat contre les injustices raciales, ce qui lui a valu d'être maintes fois arrêté, battu par la police particulièrement, ce jour de 1965 en Alabama, lors d'une nouvelle marche. La suite, il la raconte au micro de Frédéric Carbone en 2015.
Le major a ordonné à sa troupe d'avancer. On a vu ces hommes mettre leurs masques à gaz. Ils se sont jetés sur nous, ils nous ont battus avec leurs matraques. Leurs chevaux nous ont piétinés, nous avons reçu des gaz lacrymogènes. J'ai pensé que j'allais mourir, que j'allais être tué sur ce pont et que ce serait la dernière protestation non violente de mon existence.
Mais 50 ans plus tard, le voilà donc qui franchit de nouveau ce pont de Selma, main dans la main avec le premier président noir de l'histoire américaine, Barack Obama.
Je dirais que d'une certaine façon, des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes de couleur se sont inscrites sur les listes électorales dans le sud des États-Unis grâce à nous. Et j'aurai toujours à l'esprit que grâce à ce que nous avons fait, nous avons un homme de couleur, Barack Obama, qui est devenu président des États-Unis. En 65, nous voulons juste traverser ce pont. Mais en marchant sur ce pont, pacifiquement, de manière non violente, nous avons changé l'histoire.
Un combat poursuivi comme parlementaire depuis 1986, mais aussi dans la rue, encore récemment, malgré son cancer, lors des manifestations suivant la mort de George Floyd.
Marie-Pierre Véraud. Et Emmanuel Macron a salué ce matin la mémoire du militant américain des droits civiques en le qualifiant de héros. Sauver un sommet mal engagé, c'est le défi qui s'impose aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles, deuxième jour de tractation, pour tenter de s'entendre sur un plan de relance des économies européennes durement frappées par la crise sanitaire puis économique. Un plan à 750 milliards d'euros, dont 500 de subventions directes aux pays les plus impactés. Mais ce plan est très contesté et les discussions extrêmement difficiles. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Laura.
Vous suivez pour nous ce sommet à distance, car la presse est interdite d'accès pour cause de pandémie. Les 27 se sont retrouvés il y a une petite heure, peut-être bien pour acter leur échec.
Et oui, mine tendue de dirigeants mutiques à leur arrivée ce matin. Les principaux acteurs de la pièce bruxelloise se sont d'abord vus en petit comité. Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas ont discuté des dernières propositions du président du Conseil, Charles Michel, avant de retrouver leurs homologues en séance plénière. Le responsable du blocage est tout désigné, Mark Rutte, représentant des Pays-Bas, intraitable sur la gouvernance du plan de relance. Pas question pour lui de décaisser le moindre euro sans l'accord de tous les États membres. Droit de regard et de veto sur les réformes qui conditionnent l'octroi de subventions. De quoi bloquer tout le processus, dénoncent les promoteurs du plan de relance. Alors les dernières concessions faites ce matin suffiront-elles à sortir du blocage? Rien n'est moins sûr. Un peu plus de prêts, un peu moins de subventions, des rabais un peu plus importants accordés à certains des pays dits frugaux, autrement dit des ristournes sur leur contribution au budget de l'Union. Et puis un mécanisme d'alerte permettant de lancer le débat à 27 en cas de réserve sur telle ou telle subvention. On va voir dans les heures qui viennent si cela est de nature à infléchir l'intransigeance néerlandaise.
Merci Louise Baudet. En France, la nomination de Gérald Darmanin ne passe toujours pas. 12 jours après sa nomination, le ministre de l'Intérieur est fragilisé. Il est, on le rappelle, sous le coup d'une plainte pour viol. Une enquête pour abus de faiblesse a été relancée au début du mois de juin, ce qui n'a pas empêché Jean Castex et Emmanuel Macron de le choisir pour ce poste clé. Depuis, les collectifs féministes et des personnalités politiques se mobilisent avec des manifestations et des tribunes dans la presse. L'exécutif prend la défense du locataire de la place Beauvau, mais la situation devient de plus en plus délicate, Pierre Neveu.
La présomption d'innocence, c'est l'argument martelé cette semaine par Emmanuel Macron et Jean Castex.
Aussi vrai que je crois à la force des causes justes, je pense qu'aucune cause n'est défendue justement si on le fait en bafouant les principes fondamentaux de notre démocratie.
Monsieur Darmanin a droit au respect des principes de la République comme tous les citoyens.
Le président, comme le Premier ministre, font bloc derrière Gérald Darmanin. Emmanuel Macron justifie d'ailleurs une relation de confiance avec le ministre. Mais si la polémique ne retombe pas, c'est à cause du symbole, car Gérald Darmanin a autorité sur ceux qui vont mener l'enquête, les policiers. Le nommer à l'intérieur est une marque de mépris, assure Valérie Pécresse. Emmanuel Macron envoie les pires symboles aux femmes victimes de violences, renchérit Rachida Dati. Et puis au-delà de l'émotion, il y a aussi la jurisprudence, François Bayrou, alors obligé de démissionner du ministère de la Justice après l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Aujourd'hui, Gérald Darmanin dénonce une chasse à l'homme. Il se dit victime d'une grande injustice, mais le doute s'est installé, qui plus est, sur le sujet des violences faites aux femmes. Cause qui a fait l'objet d'un Grenelle en fin d'année dernière. Une cause juste, assure Emmanuel Macron.
Pierre Neveu, et au sujet de la présomption d'innocence dans l'affaire Darmanin, vous pouvez retrouver sur franceculture.fr un entretien avec Béline Nabli, expert en droit public. Cela fera 4 ans demain, 4 ans qu'Adama Traoré est mort lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Une marche est prévue aujourd'hui dans cette commune du Val d'Oise. Une marche co-organisée, c'est inédit, par le comité Adama qui rassemble ses proches et par Alternatiba, organisation de défense du climat. Le but, selon Alternatiba, est de défendre, je cite, une écologie populaire aux côtés des populations, en première ligne des injustices et de la pollution. Et par ailleurs, les juges d'instruction ont ordonné 14 nouvelles investigations dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, en plus de 3 autres demandes de la part de l'avocat de la famille, dont une nouvelle expertise médicale. Paris-Plage reprend du service malgré la crise du Covid-19. C'est aujourd'hui que démarre la 19e édition, largement adaptée cette année aux mesures sanitaires, avec le port du masque recommandé et du gel hydroalcoolique à volonté. Plus d'une cinquantaine d'animations sont prévues jusqu'au 30 août, le long du parc Rivière de Seine et du bassin de la Villette. Le temps cet après-midi, le ciel se dégage, encore quelques nuages le long de la Manche, des cumulus le long du quart nord-est. Ailleurs, le soleil domine, un temps orageux sur les Alpes du Sud et le relief corse. Il fera entre 20 et 25 degrés près de la Manche, de 26 à 31 ailleurs, jusqu'à 34 sur le Languedoc. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet et Yanis Joudad à la technique.